Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, un livre qui est aussi un dialogue. Un dialogue vivant et chaleureux qui retrace le parcours d'une historienne. Annette Wiewiórka était parmi les premières à travailler sur la mémoire de la Shoah et les enjeux qui sont liés à cette mémoire. Elle a participé à la commission Matteoli qui revenait sur la spoliation des biens juifs pendant la guerre en France et a accompagné par son travail l'histoire et les commémorations des 50 ans de la libération d'Auschwitz, qui est désormais devenu aussi un lieu de mémoire. Mais comme on comprend parfois mieux les itinéraires des historiens à la lumière de leur parcours personnel, ce dialogue se nourrit aussi du récit de la vie de l'historienne. Pour en parler, avec nous les deux auteurs de ce dialogue, Séverine Niquel, qui est rédactrice en chef au magazine L'Histoire, et Annette Wiewiórka, qui est historienne. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, vous pouvez nous raconter comment est née cette envie de faire ce dialogue, toutes les deux, ce que vous vouliez dire, raconter, et pourquoi donc croiser cet itinéraire personnel et professionnel pour commencer.
Alors, c'est pas né d'une envie, c'est né d'une sollicitation d'Hélène Monsacré, qui dirige chez Albin Michel une collection qui s'appelle Itinéraire du savoir. Et c'est elle qui a eu l'idée de ce livre. Ensuite, je crois que je peux dire que c'est moi qui ai eu l'idée de le faire avec Séverine, parce que nous travaillons depuis de très nombreuses années ensemble, dans le cadre du magazine L'Histoire, et que je pensais que c'était bien de faire ce livre ensemble.
Oui, c'est vrai que c'était pas un désir qui nous est venu à l'origine, mais on s'est absolument passionné. Enfin, moi, ça m'intéressait beaucoup de revenir sur un itinéraire intellectuel et de pouvoir s'interroger ensemble sur ce qui, dans la biographie, dans l'air du temps, dans l'historiographie, nourrissait les questionnements de la recherche. Comment naissent les questions, d'où elles viennent, comment on se laisse surprendre par les hasards aussi de la recherche, par les hasards de la documentation, et qu'est-ce que c'est une vie de chercheur créative, d'où vient cette créativité, parce que je crois beaucoup que les chercheurs, même les chercheurs en histoire, sont aussi des inventeurs et des découvreurs. Donc ça m'intéressait qu'on passe ensemble par les tours et les détours d'une vie intellectuelle. Il n'était pas question non plus d'entrer dans la vie intime, ni de construire ensemble une biographie. C'est pas non plus une enquête. On n'a pas ouvert les archives d'Annette Wiewiórka. Donc c'était vraiment né d'une conversation souvent assez libre et puis parfois plus soutenue.
Oui, puis on voit bien, alors c'est intéressant dans le livre, comment les choses ricochent, comment les choses se répondent, et puis finalement à la fin de la lecture du livre, on voit bien qu'il y a des fils qui sont tirés entre votre enfance, entre votre parcours militant, votre parcours de chercheur, et que voilà, les choses ne sont pas comme ça posées au hasard les unes des autres. Finalement, il y a vraiment une direction, un sens des fils qui sont tissés.
Oui, mais je pense que ça n'a pas été délibéré. Ce qui a été délibéré, C'est en gros la clôture, c'est-à-dire l'idée qu'on n'entrait pas dans l'intime et que ce que je disais de l'histoire de ma vie ou de l'histoire de ma famille était ce que nous pensions avoir agi sur l'itinéraire intellectuel. Et ensuite, nous avons réellement conversé, enregistré d'ailleurs chacun des entretiens, et retravailler à partir de ces entretiens. Et beaucoup est né de ce dialogue. Et nous avons nous-mêmes été étonnés de voir finalement comment des liens se tissaient, qui se sont tissés au fil de nos conversations et qui ne préexistaient pas au début de cette aventure.
Mais c'est vrai que de l'engagement maoïste et du voyage en Chine, on peut tirer un fil jusqu'à l'interrogation sur la vie de Thorez, le séjour de Thorez et Jeannette à Moscou. Enfin, Annette faisait le parallèle, cette expérience qui est aussi une expérience qui a été par moments difficile à assumer, disiez-vous, Annette, a nourri aussi la réflexion intellectuelle sur ce qu'on peut savoir et ce qu'on ne peut pas savoir dans un pays totalitaire, ce qui vous est forcément dissimulé. Enfin, il me semblait que ça, c'était des choses qui avaient nourri votre expérience intellectuelle aussi.
Tout à fait. Mais ça ne présente pas une originalité bouleversante si on lit les écrits de nos grands aînés, Pirenne, Bloch. Ils étaient très attentifs au fait que c'était les expériences de la vie, les grandes, par exemple celles de la Grande Guerre, ou les petites, qui étaient les visites de villes à l'étranger, qui finalement nourrissaient un travail sur des époques infiniment plus reculées que celles qui m'intéressent. Donc je crois qu'on ne peut pas être un historien, je ne veux pas dire un bon historien, ce serait prétentieux.
Mais je le dirai à votre place.
Voilà, je pense qu'on ne peut pas être un historien si le seul déplacement que l'on fait, c'est d'aller de son bureau aux archives, dans une bibliothèque, et si on n'a aucune expérience du monde et de la vie, et si on ne sait pas regarder le monde, ce qu'il y a autour de soi.
Alors il y a un personnage, effectivement ça pourrait être l'illustration de ce qu'on est en train de dire, un personnage qui est à la fois absent et présent dans ce livre, donc Wolf Iwiorka, qui est votre grand-père, et qui est donc mort à Auschwitz, qui est arrivé en France dans les années 20, un intellectuel, un écrivain, un yiddishiste, comme on l'apprend dans le livre, qui a accompagné votre enfance comme une espèce d'absence, avec cette photo de lui qui est dans votre entourage familial, et puis sur lequel vous allez travailler ensuite, et qui va vous amener à travailler ensuite sur les livres du souvenir indirectement, et qui va, voilà, qui est comme un fil qu'on peut tisser comme ça, par exemple, dans certains aspects de votre travail.
Oui. Il était journaliste, il était écrivain. Je crois qu'il passait beaucoup de temps à se balader dans Paris, que c'était un promeneur, peut-être plus d'ailleurs, peut-être plus qu'il était à sa table de travail. Et toute son œuvre de journaliste et d'écrivain a été nourrie de ce qu'il voyait de ce Paris yiddish. J'ai lu ces nouvelles avec mon père en yiddish avant que mon oncle les fasse traduire et publier à Maison de la Culture Yiddish. Et c'est vrai que c'est un fil parce que, en même temps, il trace un certain nombre de portraits, des portraits d'artistes, mais aussi des portraits de militants, notamment un portrait de militante, la pieuse Bella, qui dit beaucoup sur la question du fanatisme, de l'engagement. Donc, je crois qu'il a cette figure, il a le fait qu'il soit mort à Auschwitz, qui a probablement beaucoup marqué mon enfance, mais il y a aussi tout ce qu'il a écrit. Je me reconnais assez bien dans ce qu'il a écrit.
Oui, puis il est quelque part, alors peut-être vous serez d'accord, Séverine Nicolle, il est aussi quelque part le témoin d'un monde englouti, bien sûr, et puis d'un monde finalement auquel vous n'avez pas eu accès directement, c'est-à-dire un héritage dont vous avez été privé d'une certaine façon.
Oui, c'est vraiment un héritage dont on a été privé. J'ai lu récemment l'extraordinaire livre de Kassov qui écrira notre histoire, et c'est un des livres qui fait le mieux mesurer la perte, c'est-à-dire la perte de ces milliers de petites gens qui étaient en même temps des travailleurs sociaux, dirait-on aujourd'hui, et des intellectuels. Et c'est ceux-là qui ont bâti une culture qui a été la culture yiddish, et cette culture qui était à la fois une culture populaire, une culture qui s'adressait aux classes populaires, mais qui était faite par des gens qui étaient si proches de ces classes populaires et qui avait finalement une haute idée de ce qu'était l'être humain. Donc je crois que j'ai souffert d'une perte dont je ne savais pas ce qu'elle était quand j'étais enfant et qu'on écoutait signé Furax, Malheur aux barbus. Et je crois que cette perte, on ne la mesurera jamais assez.
Je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que ce parcours est le parcours de toute une génération de jeunes juifs nés après la guerre qui avaient été privés d'une partie de la transmission, d'une part par le déracinement et par l'exil, et d'autre part par l'extermination de leurs grands-parents.
Oui.
Et on a toujours voulu faire l'aller-retour, oui, disons, entre le parcours singulier et l'inscription dans une génération, l'histoire collective.
C'est vrai qu'on a privilégié ce qui, dans cette histoire, était semblable à l'histoire d'autres. Pas tout le monde, mais d'autres. Et mes amis de ma génération qui ont lu ce livre et qui sont très éloignés de... professionnellement, on dit « je m'y retrouve ». Donc finalement, c'est un itinéraire typique. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir été en Chine, mais tout le monde a été communiste, trotskiste, maoïste, ou tout ce qu'on veut dans cette génération. Tout le monde n'est pas obligé d'être historien, mais tout le monde a eu sa part d'intérêt pour cette histoire que chacun a menée comme il le pouvait, comme il le souhaitait, et le plus souvent d'ailleurs en marge d'une autre vie professionnelle, de médecin, d'avocat, d'autres choses, quoi.
Alors il y a une parenthèse dans votre vie qu'on a évoquée à demi-mot dans le départ de cette émission, ces 2 ans où vous êtes donc dans la Chine populaire, la Chine maoïste en tant qu'enseignante, en tant que maoïste donc également à ce moment-là. Une expérience qui est très singulière, très particulière, et qui vous a beaucoup aidé, vous dites, dans votre travail d'historienne, notamment autour des questions de ce que l'on sait, ce que l'on croit savoir, dans des endroits où tout est fait pour qu'on ne sache rien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait vraiment concrètement? Et dans ce livre, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à la fois vous restez, à la fois vous savez d'une certaine manière, puisque vous lisez avec d'autres des textes de gens qui dénoncent ce qui se passe en Chine, et puis vous riez de la manière dont ils ridiculisent ceux qui ne voient rien. Et il y a cette espèce de zone très floue et que vous décrivez très bien quand on est dans un quotidien, où à la fois on sait, on ne sait pas, tout en sachant, sans savoir. Et c'est très intéressant de voir ça, c'est-à-dire que les choses ne sont jamais aussi simples qu'on aimerait qu'elles soient, en tout
Absolument.
Cas.
Absolument. Alors Séverine m'a énormément bousculée.
Oui, elle vous
pour
cherche.
Pour ce chapitre,
hein.
Elle m'a beaucoup cherché. À la radio, ça ne se voit pas, mais nous sommes de 2 générations différentes. Elle a une génération plus jeune que la mienne. Et ça n'a été l'obstacle à aucune compréhension dans le dialogue, sauf sur l'épisode chinois, où Séverine a manifesté une très large incompréhension, qui était d'ailleurs aussi ma propre incompréhension par rapport à ce passé, c'est-à-dire par rapport à comment j'ai pu passer 2 années dans les conditions qui ont été les nôtres, puisqu'on était coupés, absolument coupés de tout. On était une poignée de Français, on était seuls à Canton, il n'y avait pas d'autres Français dans cette ville, les autres étaient à Shanghai ou à Pékin, on était très peu nombreux à vivre cette expérience d'être enseignant au moment de la grande révolution culturelle prolétarienne. Et c'est vrai que j'ai du mal à retrouver les ressorts de cette expérience. En revanche, je sais que j'y ai constamment pensé quand... on parle de la question de la soumission dans un État totalitaire, la question de ce que l'on peut savoir. Et si on regarde ce type d'expérience, c'est vrai qu'elles permettent de comprendre bien, bien des choses, oui.
Alors, est-ce que vous avez compris finalement, Séverine Niquel?
Alors, oui, un peu. j'ai fait quelques efforts. Ce qui m'a beaucoup éclairée, c'est le moment où Annette Wiewiórka a dit « On est bilingue, on parle la langue de bois et puis on parle sa propre langue et on est en quelque sorte bilingue. » Voilà. Donc, et j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de moments dans l'existence quotidienne où on était bilingue. J'ai pu établir un lien. Voilà, on est parfois divisé. Et on peut faire cohabiter des pensées contradictoires.
Et puis il faut le temps, c'est ça aussi qui est intéressant, vous dites bien, et finalement il faut le temps de, alors effectivement, comprendre, savoir, et puis accepter, c'est-à-dire accepter de renoncer aussi d'une certaine manière. C'est aussi s'apercevoir de quelque chose, qu'on est trahi, qu'on est trompé, qu'on se trompe soi-même, c'est
et
aussi un renoncement.
Et puis on change.
Et puis on change, et puis on change d'approche, mais c'est surtout un renoncement qui a été celui de ma génération. C'est-à-dire c'est le renoncement qui a été celui d'une explication globale du monde. Et c'est la fin, enfin nous sommes les derniers feux de cette idée qu'on peut créer un homme nouveau. J'irai les derniers feux parce que la grande aventure a commencé en Union soviétique avant. Et il est vrai que entre le moment où je rentre, je quitte comme tout le monde, enfin sur la fin des années 70, il y a l'effet Solzhenitsyn, il y a l'effondrement du communisme, il y a tout le travail qui a été fait sur ce qu'a été la criminalité de ce mouvement, et ça rend difficile de regarder cela parce que on se sent coupable, même si on n'a pas fait grand-chose. Hein, je me vanterai beaucoup, j'ai jamais conseillé aux Chinois à dire « Vive le président Mao » en français. C'est quand même un crime... léger. Mais si on veut être cohérent avec soi-même, on se dit qu'on a participé, on a été partie prenante de ce système qui est un système criminel. Donc il faut aussi se dégager de cette culpabilité pour essayer de comprendre quelque chose.
Et est-ce que vous pensez, Annette Wiewiórka, que ce détour finalement par le maoïsme est aussi ce qui vous a permis de revenir à ce qui était une histoire privée, intime, familiale, ce qu'on lit bien aussi dans le livre, et qui devient peu à peu une histoire collective, cette histoire de la Shoah, cette histoire de la guerre
Absolument, parce que d'un point de vue, je dirais personnel, je me suis dit, mais je suis allé aux antipodes. Un pays où il n'y a pas de juifs, un pays où on n'a même pas la même guerre, la même seconde guerre mondiale qu'en Europe, vraiment un exotisme absolu. C'est-à-dire je suis allé le plus loin possible de mes bases. Et je pense que c'est une bonne position pour revenir après et s'interroger sur qu'est-ce qu'on est et comment on s'inscrit soi-même dans l'histoire. Donc je pense que ça a été un détour nécessaire, ou du moins j'ai envie que ce soit un détour nécessaire.
En tout cas, ça a été un détour.
Mais ça a été un détour, ça c'est sûr.
Alors peut-être vous pouvez nous raconter ensuite effectivement ce qui a fait que peu à peu vous en êtes venue à devenir historienne, à consacrer une thèse à la question de la mémoire de la Shoah par le biais des livres du souvenir dont on ne sait pas toujours très bien encore aujourd'hui ce que c'était, ces livres qui ont été réalisés juste après la guerre par les survivants
des communautés. Alors je m'intéressais déjà à l'histoire, hein. Je m'y suis intéressé dès le lycée et mai 68 a été le moment où, après une hésitation, je suis passé à l'histoire plutôt qu'à la littérature. Donc quand je reviens de Chine, je ne pars pas de rien, je suis prof certifié d'histoire. Enfin, j'ai déjà une profession qui n'est pas celle de chercheuse. Et en fait, j'ai commencé par vouloir faire une biographie de mon grand-père, que je n'ai pas réussi à faire. Et en faisant des recherches sur lui au IVO à New York, je suis tombé, donc par hasard, enfin la bibliothécaire m'a donné le livre du souvenir de la ville de Gerardhof, qui était la ville natale de mon grand-père. Et je me suis dit, mais c'est génial, il y a une source que personne ne connaît. Sauf qu'à l'époque, ça n'intéressait personne.
C'est toujours le problème, c'est la question du moment.
Voilà, exactement.
Donc c'était quand même un travail très pionnier sur comment se construit une mémoire collective à un moment où, les recherches sur la mémoire étaient extrêmement embryonnaires, les lieux de mémoire n'étaient pas encore parus. Donc il y avait quelque chose de vraiment très novateur qu'Annette Wiewiórka a construit avec Itzhok Niborski. Pour créer leurs outils conceptuels et voir que là, il existait un genre, qu'il avait une unité, que même si tous ces gens ne s'étaient pas concertés, ils écrivaient d'une certaine manière et que ça témoignait de l'existence de cadres sociaux de cette mémoire. Que bien sûr, la réception n'avait pas été forte, la réception du livre n'a pas été forte non plus. Peut-être venait-il quelques années trop tôt, mais ensuite, quand Déportation et Génocide est publié quelques années plus tard, là, le champ est en pleine explosion et le livre a un retentissement considérable.
C'est très intéressant de voir comment, au tout début des années 80, il y a une petite poignée de personnes. Pierre Nora d'abord, hein, parce que les deux de mémoire, la publication est de 84, mais c'est en chantier depuis. Pierre Nora, Henri Rousseau de façon différente. Donc il y a une petite poignée de gens qui s'intéressent à ce champ où, en dehors du travail d'Alvax, il n'y a rien. Si on se retourne 30 ans après, on est littéralement envahi. On ne peut pas tout lire. Il y a un colloque tous les deux mois sur la mémoire collective, sur les lieux de mémoire, les lieux de mémoire victimaires. Enfin, on décline ces lieux de mémoire partout. Et moi, je pense que cette période-là est aussi en train de se terminer. Mais on voit comme ça s'ouvrir des questions, se refermer. Et c'est Séverine qui remarquait que c'était quand même intéressant de voir comment des questions qui sont brûlantes disparaissent. Brusquement, des polémiques. On se demande pourquoi on s'est disputé avec une telle violence. L'objet même de la polémique n'existe plus. Et comment des sujets arrivent comme des sujets capitaux et puis s'estompent.
Oui, et peut-être, c'est vrai, nickel, pour conclure, vous pouvez nous essayer de nous dire ce que cette conversation, finalement, donne comme cohérence, comme vision de l'itinéraire d'un historien. Parce que donc, vous travaillez au contact de nombreux historiens, donc vous connaissez bien cette sorte de gens.
Ce que je voudrais dire, peut-être, pour conclure, c'est qu'il y a quelque chose de très singulier dans l'itinéraire d'Annette Wiewiórka, c'est le fait que son champ d'études a rencontré une demande sociale considérable et que donc son travail a contribué à alimenter la réflexion de l'opinion publique, aussi à la structurer, à l'aiguiller, mais qu'elle a vécu quand même une expérience très rare pour un chercheur, c'est de voir son objet d'étude passionner littéralement le grand public, de voir les hommes politiques s'y intéresser, les journalistes s'y intéresser aussi énormément, et comment un historien navigue à travers ça, s'en nourrit, a réussi à conserver la distance sur l'évolution de son champ, et je crois que moi c'est ça qui m'a aussi beaucoup intéressée dans ce dialogue, parce que Annette Wiewiórka a construit une œuvre importante dans ce domaine, et c'était intéressant de s'interroger ensemble sur sa résonance publique.
Alors peut-être un dernier mot, Annette Wiewiórka, assez bref, parce que le temps nous est compté comme toujours, sur ce que vous dites, ce qu'on lit à la fin de ce livre, sur cette idée de sortir de la Shoah, sortir de cette histoire. Donc vous avez consacré votre dernier travail, en dehors du colloque que vous avez organisé autour du procès Eichmann, vous avez donc consacré un livre, une biographie croisée autour de Maurice Thorez et de sa femme, donc Jeannette Vermeersch. Peut-être pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par ça.
D'abord, il y a un problème de dynamique. Ma propre dynamique intellectuelle est terminée. C'est-à-dire que je peux continuer à travailler, mais je ne suis plus mu par des questions. Tous les questionnements qui étaient les miens, j'y ai répondu comme j'ai pu et aussi loin que j'ai pu. Donc, je décide de passer à des activités tout à fait différentes, mais je ne suis pas tout à fait encore à la retraite.
Ce serait dommage.
Donc, ce serait dommage. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à m'intéresser à autre chose. Et aussi un soulagement, parce que ces sujets sont lourds. Bon, ils sont aussi lourds parce qu'ils sont inscrits dans mon histoire, alors que m'intéresser au communisme, peut-être que pour quelqu'un qui aurait été membre du Parti communiste, ce sujet serait lourd. Pour moi, il ne l'a pas été du tout. Je me suis senti très libre de me promener comme j'avais envie dans cette histoire.
Merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle donc Annette Viviurca et Séverine Niquel que votre livre d'entretien, L'heure d'exactitude, vient de paraître aux éditions Albin Michel. J'invite les auditeurs à le lire, il est très agréable à lire. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.